Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous en ce vendredi. Ici, on réfléchit ensemble, vous le savez. On s'interroge, on s'éveille et nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 15h30. Et aujourd'hui, on interroge notre crédulité. Personne n'a jamais marché sur la Lune. La Terre est plate. Lady Di a été assassinée sur ordre de la famille royale. Le monde est gouverné par des reptiliens qui se cacheraient sous une apparence humaine. D'ailleurs, regardez bien, Obama, Nicolas Sarkozy ou encore Madonna en feraient partie. Depuis toujours, fake news ou autrement dit fausses informations et complots fleurissent dans les conversations. Mais l'apparition de la Covid et les réseaux sociaux n'ont fait qu'exacerber le phénomène. Il y a un an, écoutez bien, en mars 2020, 17% de la population française croyait que le nouveau coronavirus avait été intentionnellement fabriqué en laboratoire pour réguler la population mondiale. Alors comment ces théories du complot naissent-elles et se propagent-elles? Comment se fait-il que des milliers de personnes y adhèrent et versent dans le doute et la remise en question de tout ce qui nous est avancé officiellement? Ces théories sont-elles dangereuses et quelles peuvent être les conséquences? Doit-on s'inquiéter pour la jeunesse et pourrions-nous tous d'ailleurs tomber dans le panneau? On va tenter de répondre à toutes ces questions et décrypter ce phénomène avec nos invités. Mais pour l'heure, on accueille Stéphane sur cette antenne. Stéphane, bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur RTL. Merci d'être avec nous. Vous avez 23 ans, vous habitez près de Marseille. Vous avez découvert tous ces questionnements, vous, très jeune. Hein. Quel âge aviez-vous?
J'avais 15 ans.
D'accord. Vous étiez donc scolarisé? Vous étiez au collège?
Oui, c'est ça, j'étais au collège.
Ouais. Comment ça s'est passé, votre scolarité?
Alors, en fait, j'étais pas très bien dans ma peau.
Ouais.
Et du coup, en fait, je suis tombé dans les théories du complot pour échapper à ça, en fait.
D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, vous aviez sentiment de ne pas être véritablement intégré? Vous étiez harcelé à l'école?
Oui, c'est ça. Et en fait, du coup, ça me permettait de m'évader de ma vie, en fait.
D'accord. Quelle est la première théorie à laquelle vous avez, enfin qui en tout cas a alerté votre curiosité et à laquelle vous avez adhéré?
Alors moi c'était surtout le 11 septembre au début.
Pourquoi?
Parce que en fait c'était mes parents qui croyaient aussi en fait, donc ils m'ont un peu.
Ah, vos parents doutaient déjà du 11 septembre?
Oui.
D'accord.
Ils me parlaient tout le temps de ça et du coup moi j'ai fait mes recherches et à force je suis rentré dedans et ça a duré 3 ans.
Qu'est-ce que ça vous a... Quand vous dites que ça a duré 3 ans, c'est quoi? C'est que ça vous a passionné, cette question-là, pendant 3 ans?
Ben, c'est qu'en fait, une fois qu'on est dedans, en fait, je me prenais pour une espèce de détective, quoi. J'allais chercher des preuves. Je faisais des associations qui n'avaient pas de sens, mais à cette époque-là, pour moi, ça en avait.
Ouais.
Et du coup, c'est comme ça que je suis tombé dedans. Et j'avais des classeurs remplis pleins de avec des liens entre le 11 septembre et d'autres événements, enfin. C'est un peu un chapeau de paille.
D'accord, donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est devenu pour vous un vrai sujet de passion, je dirais, cette théorie du complot sur le 11 septembre, hein, comme quoi il ne s'agirait pas d'attentat, on y reviendra. Mais en tout cas, qu'il y avait derrière cette information qu'on nous donnait, d'autres informations qu'on nous cachait. Vous dites, je me suis presque pris pour un enquêteur, c'est-à-dire que ça vous a pris du temps, vous avez fait des classeurs, vous avez créé
oui.
tout un monde, en fait, de recherche.
Ben, en fait, j'étais dans ma chambre et des classeurs pleins remplis de graines que de ça en fait. Et ça me permettait de m'évader de ma vie parce que ma vie n'était pas très jolie à cette époque-là.
Ouais. Oui, donc en fait, si je comprends bien, c'est que vous aviez une jeunesse qui n'était pas très drôle et que quelque part, ça vous a sorti de vos problèmes que de vous intéresser à ce genre de choses avec cette idée en plus que vous alliez découvrir une vérité, quoi.
Oui, c'est ça.
Donc ça a duré 3 ans. Donc à 18 ans, vous étiez, et c'est intéressant ce que vous dites, j'étais tombée dedans. Est-ce que c'est comme on tombe dans une forme d'addiction?
Oui, clairement. Pour moi, c'était le cas. C'est-à-dire que quand je rentrais de l'école, c'était directement sur mon ordinateur, en train de chercher des trucs, de faire des associations. Mmh. Et même, de toute façon, il y avait le week-end, je sortais pas, j'étais tout le temps en train de faire des recherches sur ça.
Et dites-moi, vos parents, ils adhéraient à ça? C'est-à-dire qu'ils faisaient des recherches avec vous? Ils étaient passionnés par ça aussi?
Alors non, pas vraiment. En fait, ils m'en parlaient, ils disaient qu'ils trouvaient ça bizarre, le septembre.
Ils n'étaient pas aussi impliqués?
Non.
D'accord. Stéphane, est-ce que ça s'est calmé après? Ou est-ce que finalement, quand on commence à tomber dedans, ce que vous nous dites, ben, on finit par douter de tout?
Alors, parce qu'en fait, c'est la vie qui l'a voulu, parce que en fait, j'ai 18 ans. Et du coup, je suis rentré dans la vie professionnelle, j'avais plus trop de temps, en fait, de faire mes classeurs, de faire mes théories et tout ça. Et en fait, avec le temps, du coup, j'ai un peu oublié. Et quand je suis revenu dessus, je me suis rendu compte que ce que j'avais écrit, c'était pas cohérent. Et j'étais plus dans l'ambiance que j'étais avant. Et du coup, j'ai arrêté d'y croire.
D'accord, donc là, vous avez pris du recul. Donc, si je comprends bien, quand vous avez commencé à travailler et que vous avez rompu l'ennui parce que vous étiez occupé et que vous n'aviez plus les mêmes problématiques que dans l'adolescence, là, tout à coup, vous avez regardé votre classeur et vous vous êtes dit quoi ?
Je me suis senti con, en fait. Je me suis dit, ouais, mais ça n'a aucun rapport entre les deux événements. Je faisais des chapeaux de paille, je faisais des liens qui n'avaient aucun sens, en réalité. Mais à cette époque-là, je pensais que ça avait un sens. Mais avec le recul, finalement, ça n'a aucun sens.
On va se retrouver dans un instant, Stéphane, parce que quand on tombe dedans, est-ce qu'on se met pas à douter à un moment donné de tout? C'est aussi la question que l'on se pose, parce que c'est la question qu'on va poser d'ailleurs aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait tous tomber dans le panneau du complotisme? Vous, c'est sur le 11 septembre, mais ça s'est poursuivi après avec d'autres histoires. À tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Aujourd'hui, on s'intéresse aux théories du complot. On se demande, est-ce qu'on pourrait tous tomber dans le panneau du complotisme? Car évidemment, les fake news et les théories du complot fleurissent, et notamment depuis un an avec cette fameuse crise sanitaire que nous sommes en train de vivre. Avant d'accueillir nos invités, on poursuit notre conversation avec vous, Stéphane. Vous habitez près de Marseille, et à l'âge donc de 15 ans, alors que votre vie n'était pas très joyeuse, vous n'avez pas eu une adolescence très facile, vous vous êtes plongé dans la théorie du complot, et notamment sur les attentats du 11 septembre. Souvenez-vous ce qui se disait à l'époque.
Plus le mensonge est gros, plus il passe. Donc on doit se poser la question de ce qui s'est passé le 11 septembre.
On nous montre un trou de 6 mètres de diamètre et il n'y a ni moteur, ni carlingue, ni siège, ni queue d'appareil, ni aile, ni rien du tout. Alors on se moque de nous.
J'ai lu les 623 pages de ce rapport et je trouve qu'il était extrêmement troublant.
Alors, si ces voix vous sont familières, c'est tout à fait normal, puisque vous venez d'entendre Mathieu Kassovitz, Jean-Marie Le Pen et Jean-Marie Bigard s'exprimer justement sur le 11 septembre. Stéphane, est-ce que vous vous êtes dit à cette époque-là, tiens, il y a des personnalités qui doutent, donc à un moment donné, c'est quelque part aussi la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que ça vous a influencé ?
Oui, parce qu'en fait, du coup, à l'époque, j'étais à l'école. Et il y avait pas mal de gens connus que je suivais, en fait, et qui parlaient de ça. Et ça m'a influencé pas mal, ouais.
Donc c'est une vraie responsabilité pour les personnalités, on y reviendra. Stéphane, arrive la Covid.
Oui.
Comment ça s'est passé pour vous? Parce que depuis cette crise sanitaire et ce premier confinement il y a un an, on entend tout et son contraire. Est-ce que vous êtes tombé dans le panneau des théories du complot?
Oui, carrément.
C'est-à-dire?
Alors... En fait, déjà, il y avait une prédisposition, parce que je croyais déjà au 11 septembre.
Oui.
J'ai déjà cru au 11 septembre. Mais il y avait aussi, en fait, une défiance au niveau du gouvernement, parce que je pense qu'ils n'ont pas très bien géré le début de la crise. Mmh. Et du coup, en fait, je suis tombé carrément dans les théories du complot. Ça, moi, la porte d'entrée, en fait, ce qui m'a fait douter, c'est qu'en fait, on ne prenait pas de mesures sanitaires adéquates. Et du coup, en fait, quand j'ai regardé une vidéo sur YouTube, pour dire la vérité, c'était une vidéo de Didier Raoult sur la chloroquine. Et c'est là, en fait, que je suis rentré dedans, parce que j'ai voulu défendre ce traitement. Et après, petit à petit, ça s'est embrigadé.
Quand vous dites « j'ai voulu défendre ce traitement », ça passe par quoi? Parce que vous parlez de YouTube, donc j'imagine que vous avez rejoint des groupes sur les réseaux sociaux.
Je récupérais un ancien compte que j'avais Twitter. Et je voulais défendre, parce qu'à cette époque-là, je me disais qu'il n'y avait que cette personne qui proposait quelque chose, en fait.
D'accord. Pour vous, il n'y avait que le professeur Raoult qui détenait la vérité.
Je pensais juste que son traitement, il fonctionnait, parce qu'en fait, du coup, il disait que c'était le plus grand professeur, il disait que... je me suis dit quand même, c'est le premier pathologue au monde, s'il dit quelque chose, c'est que c'est vrai, quoi.
C'est allé loin, quand même, hein, toutes les théories du complot au moment de la Covid. À quoi est-ce que vous avez cru encore?
Au début, c'était juste ça, mais après, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à remettre en doute toutes les décisions gouvernementales. Donc les masques, j'ai dit que c'était inutile, le confinement, c'est inutile, enfin, les vaccins, ça transforme en OGM, enfin, je suis allé quand même pas mal loin.
Donc vous étiez convaincu que vous déteniez une forme de vérité?
Oui, c'est ça.
Alors que vous n'êtes ni scientifique, ni politique, mais bon, vous étiez convaincu que les politiques se plantaient et ne prenaient pas les mesures adéquates, et que tous les scientifiques et les médecins qu'on entendait sur ce sujet étaient en train de nous raconter des bobards. Clairement, c'est un peu ça, si je résume.
Mais je pensais en fait que les scientifiques qui parlaient de ça, c'était des gens qui étaient payés par le gouvernement ou par l'industrie pharmaceutique.
Vous avez entendu parler de cette théorie qui disait que la 5G diffuserait le coronavirus.
Oui, c'est justement ça qui a fait que je me suis en allé en fait.
C'est-à-dire ?
Eh ben en fait, c'est parce que du coup, j'ai commencé à croire à de plus en plus de choses dans la COVID-19. Donc comme quoi les chiffres ils étaient faux, comme quoi il y avait le confinement était inutile, comme quoi les masques étaient inutiles. Et puis, en fait, en parlant avec des gens, puisque j'ai parlé avec des gens, on a créé un groupe, on a discuté ensemble, et en fait, on s'est auto-convaincu ensemble. Et du coup, on était de plus en plus radicalisés, on va dire. Mmh. Et puis, j'ai vu des gens qui ont dérivé complètement, et je me suis posé des questions. Et c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont commencé à croire à 5G avec le vaccin, c'est des choses que je ne pouvais pas moi croire parce que c'était trop gros pour moi en fait.
Voilà, donc il y a un moment où c'est plus devenu crédible pour vous, mais ce que j'entends quand même, c'est que vous étiez un groupe, que quelque part vous vous montiez aussi la tête sur ce qui...
entre nous.
Voilà, ce que vous présentiez comme des vérités. Est-ce que ce groupe a exacerbé votre croyance ? Si vous aviez été seul, est-ce que vous auriez cru de la même manière, ou est-ce que vous pensez qu'il y a eu une émulation dans le groupe ?
Si j'étais seul, j'aurais cru à rien du tout en fait.
D'accord. Donc c'est l'excitation du groupe.
Oui, clairement.
D'accord. Là, ça vous a semblé trop gros, l'histoire de la 5G qui allait diffuser le coronavirus.
Ça, et aussi, il y a eu une histoire de... Il y a des gens qui dérivaient dans les théories QAnon aussi.
D'accord, les théories QAnon dont on parlera tout à l'heure, qui viennent donc des États-Unis, mais qui s'exportent en France, et ce qui inquiète effectivement tout le monde. Stéphane, donc qu'est-ce que vous avez fait à un moment donné ? Parce que vous parlez au passé, vous avez fait machine arrière, vous n'avez plus l'air de défendre tout ça.
Ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que justement, quand j'ai vu que ça allait un peu trop loin pour moi, en fait, et du coup, avec ces personnes, je me retrouvais plus, en fait. On n'était plus... Il y avait une fracture.
Ouais.
Et du coup, j'ai commencé à me poser des questions.
Ouais.
Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que déjà, je suis allé voir des gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec moi, quoi, pour essayer de comprendre leurs arguments, pour essayer de voir si je tenais la vérité ou pas, en fait, parce qu'en fait, depuis le début, je ne parlais pas avec les gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, donc forcément, je ne faisais que valider ma thèse, quoi. Mm-hmm. Et du coup, j'ai commencé à parler avec des gens, et petit à petit, je me suis rendu compte que tout ce que je disais, en fait, n'était pas vrai, parce que je n'avais pas les connaissances pour j'avais pas les connaissances pour savoir, mais en fait, c'était basé sur rien, sur aucune étude scientifique, rien.
Et c'est là que les choses ont changé pour vous. On peut dire que vous êtes un complotiste repenti.
Oui, Stéphane, on peut le dire.
Est-ce que vous avez peur de retomber dans le panneau ?
Ça peut arriver, je pense, mais pas sur le Covid.
J'ai bien compris. Le 11 septembre, c'est réglé. Le Covid, c'est réglé. Mais néanmoins, ce que j'entends chez vous, c'est que vous dites que ça peut arriver. C'est-à-dire que vous avez peut-être une sensibilité à ces informations que l'on retient plus bien souvent que certaines vérités. Vous restez avec nous, Stéphane. Et dans un instant, on va accueillir nos invités. À tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
On parle du complotisme aujourd'hui, on remercie Stéphane parce que ce n'est pas facile de parler de ça. Stéphane qui nous a expliqué effectivement son parcours dans le monde du complotisme entre les théories sur les attentats du 11 septembre, les tours jumelles à New York et puis les théories parfois complètement farfelues aussi qui ont circulé donc depuis la crise sanitaire et l'arrivée de la Covid. On accueille nos invités Stéphane qui vous ont écouté avec beaucoup d'attention. Sylvain Cavalier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation Sylvain, vous êtes vidéaste de la chaîne YouTube Débunker les étoiles ou Débunker des étoiles, débunker, je ne sais pas. Un débunker, c'est un démystificateur en fait, c'est ça ?
C'est ça, c'est quelqu'un qui va s'atteler à démonter les arguments en faveur de la théorie du complot.
Merci d'être avec nous, vous restez avec nous jusqu'à 15h30. Sébastien Boller, bonjour.
Bonjour Flavie.
Merci d'être là Sébastien, vous êtes rédacteur en chef de Cerveau et Psycho et docteur en neurobiologie. En 2018, vous avez entendu le témoignage de Stéphane, il y a une équipe de chercheurs du MIT, c'est une université américaine, qui a réussi à démontrer qu'une fake news avait 70% de chances en plus d'être partagée qu'une information vraie, notamment sur Twitter. Alors qu'est-ce qui explique notre appétence pour le doute et la remise en question ?
En l'occurrence, c'est pas forcément notre appétence pour le doute, mais plutôt notre appétence pour la crédulité.
Ouais.
Quand on voit exactement le témoignage de Stéphane, c'est ça, on voit vraiment des ingrédients clés de l'attirance pour les théories du complot. Il nous expliquait très bien que dans sa jeunesse, il se sentait pas très bien. La vie était difficile. Donc il y a une première dimension très attirante dans les théories du complot, c'est le côté des histoires qu'on peut se raconter, de la fiction. Toutes les fictions et les histoires procurent de l'évasion, avec des éléments très originaux. On sait très bien que les explications alternatives de la réalité peuvent avoir un attrait à cause de ça. Parce que c'est différent, c'est attirant, ça attire l'attention. Et cette capacité à capturer l'attention est aussi une caractéristique des fake news. Moi, j'avais vu le chiffre qu'elle se propage 6 fois plus vite qu'une information vraie, parce que bien souvent, les informations vraies sont un peu banales. On croit les savoir, donc on trouve pas ça forcément très attirant. Et dans le même ordre de grandeur, il y a des études qui ont montré qu'il y a un besoin humain qui s'appelle le besoin d'unicité, voilà, de se sentir unique, de se sentir original. Et on a tous ce besoin plus ou moins développé, hein, selon les individus. Et bien, plus vous avez un fort besoin d'unicité, plus vous allez être vulnérable aux théories du complot. Parce que vous allez pouvoir vous présenter sous un jour différent, original, dans les conversations mondaines. Et puis également, vous allez être très intéressé, attiré par les personnages qui détonnent, hein, dans le paysage médiatique. Typiquement, des Didier Raoult, on en a parlé, ou d'autres, ceux qui disent « j'ai raison contre tous ». Parce que je suis unique, je suis différent. Et donc, on se reconnaît là-dedans, on a besoin de se sentir une personne unique. Ça, c'est un besoin humain très très largement répandu. Mais en même temps, de l'autre côté, il y a ce que disait Stéphane, c'est le besoin d'appartenance. Et il a très bien dit, d'abord la famille. Les parents le disaient, je l'ai dit aussi, parce qu'on épouse les croyances de ceux qui nous sont chers. L'être humain existe par la croyance partagée. Je crois la même chose que ce que j'aime, donc je suis accepté, je fais partie du même groupe. Et ensuite, dans le groupe, notamment sur les réseaux sociaux, on se retrouve avec des personnes qui nous renvoient nos propres opinions. Donc d'un point de vue, c'est économique sur un plan cognitif, et puis on se sent proche, on se sent entouré, on se sent faire partie d'un groupe. Et puis l'addiction dont parlait Stéphane aussi, c'est tout simplement le fait qu'une fois qu'on s'est enfoncé dans une certaine interprétation du monde, il y a un autre biais qui intervient, qui s'appelle le biais de confiance. C'est-à-dire qu'on interprète toutes les informations qui nous viennent en gardant celles qui cadrent avec notre théorie, parce que c'est facile, c'est économique d'un point de vue cognitif, il n'y a pas besoin de tout remettre en question, et on rejette celles qui pourraient contredire le cadre d'interprétation qu'on a accepté, parce que si elles contredisent, ça voudrait dire qu'il faudrait remettre en question son point de vue, et ça c'est difficile. Donc tout ça, ça fait un véritable piège pour le cerveau. Il y a vraiment des biais dans tous les sens qui font qu'on est très vulnérable naturellement aux théories du complot. Donc ce qu'il va falloir mettre en œuvre derrière, c'est le doute systématique, c'est le debunking, c'est l'esprit critique, et Stéphane a quand même été assez méritoire d'arriver à faire ça par lui-même, passé un certain âge.
Bravo, bravo Stéphane, effectivement. Rudy Reichstadt est avec nous aujourd'hui. Bonjour Rudy, merci d'être avec nous.
Bonjour, salut Fanon.
Vous êtes fondateur du site conspiracywatch.info, observatoire du conspirationnisme et des théories du complot, et auteur de L'opium des imbéciles. C'est un essai justement sur la question complotiste chez Grasset. Vous avez déclaré le complotisme n'est pas le signe d'un éveil à la pensée critique, mais sa négation. Et pourtant, quand on écoute ceux qui sont tombés dedans, comme le dit Stéphane, y a quand même ce côté, on n'est pas des moutons, quoi. Nous, on réfléchit et nous, justement, on a un libre arbitre.
Oui, mais je crois que ça n'est qu'une posture, justement, et que cette posture-là est une imposture. C'est-à-dire qu'en réalité, le complotisme ressort du domaine des croyances et relève davantage de la crédulité bêlante qui se prend pour de l'indépendance d'esprit que réellement pour du libre examen et de la pensée critique. Si vous voulez, si c'était le cas, déjà, les complotistes douteraient de tout. Or, ce n'est pas le cas. Ils ont un doute très sélectif, ils ont un doute à géométrie variable qui porte sur certaines choses et pas sur d'autres, qui notamment ne remettent jamais en doute leurs propres doutes, et notamment parce qu'ils confortent la théorie du complot à laquelle ils adhèrent. Donc je crois qu'il faut réinscrire cette question de la théorie du complot dans le domaine précisément des croyances au sens large.
Sébastien Boller, merci de nous avoir accordé du temps aujourd'hui. On vous laisse et je rappelle et je conseille évidemment Cerveau et Psycho et votre dernier ouvrage aux éditions Robert Laffont, Où est le sens, les découvertes sur notre cerveau qui changent l'avenir de notre civilisation. Merci Sébastien.
Merci
Stéphane, merci beaucoup parce que c'est pas toujours évident d'être un complotiste repenti, je dirais. Et je sais que vous jugez votre témoignage utile pour ceux qui nous écoutent et qui pourraient adhérer à des croyances peut-être farfelues. On va se demander dans un instant si ce sont vraiment des croyances totalement irrationnelles, car nos invités sont là pour répondre à toutes nos questions. Et Sylvain Cavalier, vous-même, hein, vous êtes passé par là et vous en êtes revenu. Et vous avez donc décidé de vous battre contre ça. Vous nous raconterez votre parcours. À tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Alors, nous sommes en compagnie de Rudy Reichstadt, fondateur du site conspiracywatch.info, et Sylvain Cavalier, vidéaste de la chaîne YouTube Des Bunkers des Étoiles. Des messages qui nous sont arrivés sur les réseaux sociaux, messieurs, au sujet donc des théories du complot. Paul nous écrit « Je suis désolé, mais il n'y a pas de fumée sans feu. On sait à quel point les grands de ce monde ont le pouvoir de manipuler et de cacher des vérités. » Vous êtes, vous, Sylvain Cavalier, je dirais, un complotiste repenti. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous vous présentez comme un débunker, c'est-à-dire un démystificateur. Votre mission, c'est de démonter les théories du complot. Est-ce que vous avez pensé ce que nous écrit Paul, c'est-à-dire il n'y a pas de fumée sans feu? Est-ce que ce sont toujours des croyances irrationnelles?
Oui, bien sûr. Bah, ça fait partie des choses que je pensais habituellement, c'est-à-dire que quand on croit à ces choses-là, effectivement, on a l'impression de connaître des vérités cachées, machin, et on se dit, vu qu'il y a eu des complots avant, eh ben, ça veut dire qu'ils peuvent faire des complots tout le temps. Ça veut dire que finalement, toutes les autres théories du complot qui arrivent, bah, elles sont possibles, elles sont crédibles. Puisqu'ils nous ont menti sur ça ou ça, puisque voilà, le mensonge des armes de destruction massive en Irak, l'affaire des couveuses, le Rainbow Warrior, voilà, on pense à tous ces scandales qui sont réels. Et on se dit finalement que bah, la nouvelle théorie du complot qui arrive, eh ben, elle est tout à fait crédible aussi. Ils auraient très bien pu mentir sur ça aussi.
Mais est-ce que ça se construit aussi, Rudy Reichstadt, sur une sorte de paranoïa? On entendait Stéphane nous dire, en fait, on était un groupe, on était une sorte de famille, et donc on était un peu une bande de parano, quoi.
Écoutez, c'est très difficile de rabattre la question du complotisme sur celle de la paranoïa au sens clinique du terme. D'ailleurs, tous les auteurs qui ont traité le sujet ont bien fait la différence entre les deux. Mm-hmm. Parce que, évidemment, le complotisme, c'est un mode de discours, c'est un discours politique, rhétorique, qui ne relève pas de la pathologie individuelle, de la pathologie mentale, si vous voulez. Donc, vous pouvez être paranoïaque, par exemple, et être complotiste. En général, ça va ensemble. Mais tous les complotistes ne sont pas paranoïaques, loin de là. Mm-hmm. Et d'ailleurs, leur paranoïa, encore une fois, elle est sélective, elle ne porte pas sur tout. Elle est orientée, vous voyez, idéologiquement, politiquement. Donc il faut faire, il faut être vigilant là-dessus. Si le complotisme est une pathologie, c'est plutôt une pathologie collective, je dirais, une pathologie de la démocratie ou de la société, une pathologie de notre manière aujourd'hui, notre écosystème informationnel, par exemple, la manière dont on s'informe sur, par exemple, les plateformes de vidéos en ligne, dont on sait que c'est directement lié à une plus forte adhésion aux théories du complot. Donc là, oui, on peut faire cette métaphore de la pathologie. Je suis pas sûr que ce soit une pathologie mentale. Les gens qui adhèrent à ces discours-là sont pas fous.
Alors, ils ne sont pas fous. Est-ce que l'on pourrait tous tomber quand même dans le panneau ou pas, Rudy ?
Alors oui, mais de manière inégale. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y a des grandes variables prédictives, sociologiques, économiques, psychosociologiques qui entrent en ligne de compte, générationnelles également. En gros, les moins de 35 ans ont en gros 2 à 3 fois moins de risques, plus de risques, d'adhérer aux théories du complot que leurs grands-parents, par exemple. Parce qu'ils y ont été exposés beaucoup plus à ces théories du complot du fait de leurs usages informationnels. Les gens qui sont moins diplômés ont plus de chances d'être complotistes, les gens qui ont un niveau de vie plus faible aussi, les gens qui ont des idées politiques situées aux deux extrêmes du spectre politique également. Donc, vous voyez, tout ça peut former une sorte de portrait robot du complotiste. Alors évidemment, il faut prendre tout ça avec des pincettes, parce que un portrait robot, c'est jamais une photographie complètement fidèle. Il est toujours un peu mensonger, un portrait robot, mais quand même, ça nous met sur la voie de grandes variables, de grands facteurs qui favorisent une adhésion à ce type de croyances.
Édouard nous écrit « Mon frère est complotiste et pense que le Covid est lié à la 5G. Il est pourtant intelligent, il est sain d'esprit, ça génère de grandes tensions au sein de la famille car il essaie de nous convaincre qu'il détient la vérité et que nous ne sommes que des moutons. » Quel profil étiez-vous justement, vous, Sylvain Cavalier, lorsque vous adhériez à toutes ces théories ?
Alors moi j'avais commencé par adhérer à des espèces de croyances, de réenchantement, comme la construction des pyramides.
Qui revient, ouais.
Oui, voilà.
Alors qu'est-ce qu'on disait sur la construction des pyramides ?
On disait que ça avait été, enfin, il y avait un documentaire qui avait été vu énormément de fois à l'époque et qui disait que finalement c'était pas les Égyptiens qui avaient construit les pyramides, mais c'était possiblement une ancienne civilisation avancée qui n'existerait plus et qui a construit les pyramides comme ça.
Donc vous, ça mettait de la fantaisie dans votre vie ?
Ça mettait de la fantaisie et après, à partir de là, ça a été une porte d'entrée vers des théories du complot plus politiques. Je me suis beaucoup intéressé après au 11 septembre pendant plusieurs années, que j'ai beaucoup creusé. Et également à l'assassinat de JFK.
Parce que Claire nous écrit, ok, la Terre qui est plate et les pyramides construites par des aliens, c'est totalement bidon, mais en ce qui concerne le coronavirus, avouez qu'il existe de grandes zones d'ombre et qu'il y a de quoi se poser des questions. On va se retrouver dans un instant, messieurs, parce que je voudrais comprendre comment naît une théorie du complot. Quels sont ses ressorts pour qu'à un moment donné, on y adhère, on gobe et qu'on ait besoin de défendre ses idées auprès des autres. Et ce n'est pas sans conséquence, parce que parfois, ça crée des ruptures. On a des messages qui vont dans ce sens. Ça tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL.
Passez une bonne après-midi en compagnie d'RTL. 14h30, 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Et on adore.
Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Merci d'être avec nous. Est-ce que les théories du complot sont dangereuses ? Quelles peuvent en être les conséquences ? Est-ce qu'on doit s'inquiéter aussi sur la jeunesse ? Pour la jeunesse, pardon. On va se retrouver dans un instant avec nos invités, mais pour l'heure, c'est vrai que l'homme n'a jamais marché sur la Lune.
Philippe ne croit pas que l'homme a marché sur la Lune. Pour lui, ces images font partie d'une vaste mise en scène pour gagner la course à l'espace.
Ben, il faut se dire qu'on est au pays d'Hollywood, donc... En matière de films, d'effets spéciaux, tout est possible et tout était possible déjà à l'époque.
Mais non, la Terre n'est pas ronde, elle est plate.
Aujourd'hui, au Brésil, nous parlons de plus de 11 millions de personnes qui ont déjà compris que la Terre est plate. Et ces gens, pas tous, mais la plupart d'entre eux, font des recherches, s'interrogent, parce que nous ne voulons pas vivre dans le mensonge.
Bon, on ne veut pas vivre dans le mensonge. Est-ce que c'est l'un des ressorts, justement, Rudi Reichstadt, de la théorie du complot ?
Bien non. Non, parce que on s'est aperçu par des enquêtes, notamment, que les gens qui adhèrent aux théories du complot, même à plusieurs, à très nombreuses théories du complot, sont pas plus allergiques aux mensonges politiques, aux mensonges généraux, que les autres. Donc c'est pas ça le moteur, en fait. Le moteur, en revanche, ça peut être le besoin de se rassurer. On en a pas encore parlé, mais par exemple, considérer que l'épidémie de Covid est quelque chose qui, en fait, à des responsables en chair et en os, d'une certaine manière, ça peut paraître paradoxal, mais ça nous rassure parce que ça circonscrit la menace. Et puis, dernier point, je pense que les croyances au sens large et les croyances complotistes en particulier, elles nous permettent d'avoir un peu, elles nous donnent du répit, intellectuellement parlant. Ouais. C'est-à-dire qu'elles nous libèrent d'une charge mentale. C'est très compliqué de vivre dans l'incertitude en permanence, avec un champ de questionnement ouvert. Qui est très usant, en fait, pour l'esprit. Dès lors qu'on se raccroche à une croyance, eh bien, c'est bon, on a fermé le champ du questionnement, on a des réponses, même si elles sont pas très satisfaisantes, mais au moins, temporairement, on peut s'accrocher à des certitudes et cesser d'y penser, quoi, tout simplement. Donc, je crois que c'est important à prendre en ligne de compte.
Oui, parce que c'est vrai, Sylvain Cavalier, faire la démarche que vous avez faite un jour et qu'a faite Stéphane, de remettre en question tout son mode de fonctionnement de pensée et de quitter le confort, je dirais quelque part, du complotisme pour justement aller à la rencontre de la différence, c'est une véritable démarche.
Oui, c'est quelque chose qui est pas très facile au début parce qu'il y a quand même un petit peu une blessure à l'ego.
Bien sûr.
Moi, je sais que quand je croyais un petit peu à tout ça, j'avais même pas envie d'aller voir en fait les vidéos de contradictions, etc. Il y avait des gens qui m'en partageaient et puis que j'avais pas envie d'aller voir, tout simplement.
Et alors, vous avez aidé, vous, aujourd'hui, vous connaissez d'ailleurs Stéphane, hein, je viens de l'apprendre, oui. Qui est intervenu, parce que vous faites partie de ceux qui l'ont aidé, justement, à débunkériser, ou débunker, comme on dit, pardonnez-moi.
Oui, enfin, se remettre en question, en tout cas.
Voilà, peut-être. On peut le dire comme ça, oui, bah, vous l'avez aidé. Donc, c'est un engagement, après, vous passez du temps dans ces cas-là, alors.
Oui, alors moi je passe du temps à répondre beaucoup aux gens, qu'ils soient d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi, tant qu'ils restent courtois bien entendu. Stéphane est venu me voir en parlant de manière tout à fait courtoise et je lui ai répondu de même et j'espère que à ce moment-là, je vais peut-être donner l'impression d'être quelqu'un de pas méchant en fait. Tout simplement.
Oui, mais parce que alors c'est intéressant parce que Rudi Reichstadt, il ne faut pas stigmatiser. J'ai l'impression, en tout cas, hein, à travers les témoignages que j'ai lus en préparant cette émission, les personnes qui croient au complot, c'est-à-dire qu'il faut essayer de les faire adhérer à une pensée plus saine, mais sans pour autant les juger.
Si vous voulez, je sais pas ça, parce que je crois pas qu'il faille manipuler les gens, si vous voulez, en disant qu'absolument il faut les peigner dans le sens du poil, etc.
Ah non, surtout pas. Non, c'est pas ce que j'entends. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que Stéphane nous avait livré en préparant cette émission que les personnes qu'il avait aidées ne l'avaient pas jugé en disant tu es un complotiste.
Oui. Non, mais ça c'est très bien. Mais ça c'est très bien de maintenir le dialogue, évidemment. Ce que je veux dire, c'est qu'on aimerait penser, parce que ce serait évidemment très rassurant pour tous, qu'il y a une frontière étanche entre les gens qui sont des entrepreneurs de politisation complotiste, pour dire clairement les théoriciens du complot, d'accord, qui seraient des gens cyniques, qui feraient ça pour l'argent, pour la politique ou l'idéologie, etc. Et de l'autre, des spectateurs passifs de tout cela qui sont intoxiqués à leur corps défendant et qui ne seraient pas, si vous voulez, actifs également. Or, de plus en plus, cette frontière-là, elle tente à s'estomper malheureusement. C'est-à-dire que les gens qui sont intoxiqués, qui tombent là-dedans, peuvent à leur tour devenir des vecteurs de complotisme, et y compris des diffuseurs considérables de ces choses-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Et moi, je pense qu'à ce moment-là, il faut tenir un discours de responsabilité. C'est-à-dire qu'il faut dire aux gens, vous croyez à ça, vous diffusez cela, très bien, mais vous êtes responsable de vos propos, et il faut que vous soyez tenu pour comptable de vos propos, parce que on ne parle pas simplement de choses de croyances extravagantes. Si c'était que ça, ce ne serait pas très grave, parce qu'on a le droit, en démocratie, heureusement, de croire à des choses contestables, bien folles, sûr, délirantes. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les théories du complot sont des croyances extravagantes, mais qui aussi peuvent être dangereuses et graves, précisément parce que ce sont des discours d'accusation, et qu'elles pointent un doigt accusateur vers des gens chers en os, accusés de comploter, etc. Et donc ça peut nourrir, pour le coup, des discours de stigmatisation, là, pour le coup, qui peuvent avoir une dimension raciste, antisémite, et avoir des effets tout à fait funestes. Donc c'est grave, voilà, c'est ça le message que j'essaie de faire passer, c'est pas des petites histoires rigolotes, les théories du complot.
On va se retrouver dans un instant, car on a beaucoup de questions de prévention, justement, et notamment auprès des jeunes. Vous le disiez, Rudi Reichstadt, les jeunes sont peut-être plus fragiles par rapport à ces grands mouvements et ce phénomène. On y revient dans un instant, car il est des parents inquiets. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Un message de Sophie qui nous écoute. Je me suis séparée de mon conjoint en juin dernier après un confinement très difficile. Bon, c'est vrai que ça n'a pas été la joie pour tout le monde. Il est devenu complotiste, persuadé que la Covid était un coup monté pour s'en prendre à notre liberté. Nos valeurs n'étaient plus du tout raccord. Il tenait un discours intolérable sur les personnes âgées et j'ai craqué après 3 ans de relation. Voilà, ça a des conséquences aussi sur nos relations interpersonnelles. Rudi Reichstadt et Sylvain Cavalier, vous êtes nos invités encore quelques instants. Des questions qui nous sont arrivées. Les jeunes sont-ils plus sensibles aux théories du complot ? Vous nous l'avez dit effectivement, Rudi. Comment les protéger et qu'est-ce qu'on doit leur dire ?
Comment les protéger ? En les armant. En les armant par l'esprit critique, par le fait de cultiver une discipline scientifique, un esprit analytique, par la connaissance, tout simplement l'histoire, la familiarité avec la littérature également, parce qu'on voit bien que la vie est plus complexe que dans une théorie du complot. Donc tout cela, et en plus de l'éducation média à l'information, concourt, je crois, à non pas à immuniser totalement, mais en tout cas à donner des anticorps pour faire face à cette désinformation complotiste. Et puis, j'ajouterais apprendre à reconnaître des contenus complotistes. Parce que lorsqu'on sait qu'ils existent et le rôle qu'ils peuvent avoir dans l'histoire, dans l'actualité, eh bien, on est déjà mieux à même pour les reconnaître et s'en prémunir.
Que dire à quelqu'un qui croit fermement aux théories du complot, Sylvain Cavalier ?
Alors, que lui dire ? Ça, c'est un petit peu toute la question. Je pense qu'il faut s'adapter aussi à son interlocuteur. En fait, le problème avec les gens qui vont croire aux théories du complot, c'est que déjà il va falloir essayer de pas leur entrer dedans, leur dire qu'ils sont complotistes. Justement, voilà, c'est normal, c'est pris comme une insulte, puisque finalement, on est en train de leur dire qu'ils sont... ils ont l'impression qu'on leur dise qu'ils sont bêtes, quoi. Donc, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, ça va être d'essayer de garder un contact, peut-être de leur partager de temps en temps. Il faut pas insister, faut pas y passer 2 heures par jour sur le sujet du complotisme. Si vous avez un proche qui croit à tout ça, faut pas insister, faut pas se braquer là-dessus. De temps en temps, peut-être lui donner des bonnes informations, entre guillemets, des bonnes connaissances, lui partager des choses qui vont dans le bon sens, en espérant que petit à petit, peut-être sur le long terme, ils se remettent en question. La remise en question, c'est un travail très très long et ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et il faut des discussions de temps en temps. Et puis dès qu'on voit que la personne commence à se braquer un peu, passer à un autre sujet, et puis garder le contact, rester bienveillant.
Rudi Reichstadt, que dire à quelqu'un qui croit fermement aux théories du complot? Ce sera ma dernière question.
Moi, je commencerai à lui dire que tout ça a un coût et que le temps qu'on donne aux théories du complot, aux fake news en général, est du temps qui est pris sur la bonne connaissance, sur la bonne information, à haute valeur ajoutée. Et donc, il ne faut pas croire que tout ça est dans un jeu à somme nulle. Les théoriciens du complot vous prennent pour des imbéciles. Donc, ne tombons pas là-dedans et surtout, essayons de nous orienter vers des contenus, encore une fois, sérieux, fiables et à haute valeur ajoutée.
Et notamment se tourner vers le site conspiracywatch.info, observatoire du conspirationnisme et des théories du complot. Je vous remercie, Rudi Reichstadt, d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Je conseille votre livre « L'opium des imbéciles », essai sur la question complotiste aux éditions Grasset. Merci beaucoup, à très bientôt sur RTL. Merci beaucoup Sylvain Cavalier. Je rappelle votre chaîne YouTube parce que ça, les jeunes, c'est bon aussi pour eux d'aller regarder sur leur réseau, je dirais. « Des bunkers, des étoiles ». Merci d'avoir accepté mon invitation. À bientôt, Sylvain.
Merci.
Voilà, merci à tous. Je vous souhaite un très bon week-end à l'écoute d'RTL en espérant que vous serez plus informés suite à cette émission. On se retrouve demain 9h15 dans Nous Voilà Bien. C'est votre magazine de consommation, vous le savez, avec notre enquête sur les usurpations d'identité qui fleurissent et contre lesquelles on a des recours, figurez-vous. Et puis lundi, retour de votre émission de partage de philo et de réflexion. En effet, pour s'entendre, ce sera dès 14h30 sur RTL. Prenez bien soin de vous. Passez un très bon week-end sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL.